Salut à tous et à toutes et bienvenue à Point de vue, ici Boris Chassagne. La prochaine demi-heure de l'émission sera habitée dans son entier par la journaliste Frédérique Lévesque, postée à tête à la baleine en Basse-Côte-Nord. Elle qui vit et travaille dans ce village d'une centaine d'habitants. Cette semaine, pour nous et pour vous, Frédérique se pose une question. Quel avenir réserve-t-on aux églises et chapelles de la Basse-Côte-Nord? Elle a parcouru des centaines de kilomètres pour nous ramener un magnifique documentaire qui traverse ce territoire. Aujourd'hui, on effectue grâce à elle un long arrêt pour découvrir la région et notre prétexte sera le sien.
Avant, on avait quand même presque 10 % de la population qui assistait à chaque dimanche. Mais maintenant, la proportion a quand même baissé. L'intérêt est comme pas revenu, l'habitude.
Vous savez, les églises et les chapelles de la Basse-Côte-Nord sont encore aujourd'hui les témoins d'une histoire locale. Elles conservent une partie de notre mémoire collective et celle de communautés qui, bien que peu populeuses, possèdent plusieurs lieux de culte, des bâtiments qui nous rappellent, d'ailleurs, les multiples confessions religieuses qui ont habité cette région, où les communautés autochtones, inoues, anglophones et francophones vivent ensemble liées par l'immensité d'un territoire dispersé le long du golfe du Saint-Laurent.
Pour un certain nombre de personnes, le problème des abus sexuels qui ont été faits dans le milieu. Je crois qu'il y en a qui ne veulent rien savoir, ne veulent plus rien savoir de tout ce mensonge
Dans ces villages, des groupes de citoyens continuent de veiller à l'entretien et à la vitalité des églises et des chapelles, en dépit du fait que les fidèles s'y font de plus en plus rares, comme partout au Québec.
Il y a des gens qui habitent toujours dans ces villages qui peuvent dire « Mon grand-père a construit cette église » ou « C'est mon oncle qui a réparé le toit » ou « C'est mon arrière-grand-père qui a contribué le terrain » ou etc. Alors, il y a un lien direct avec beaucoup des familles dans ces communautés avec ces églises.
En plein hiver, alors que la route blanche permettait à Frédérique de voyager en motoneige de village en village, elle est allée à la rencontre des résidents de la Basse-Côte-Nord pour mieux comprendre le lien qui unit encore aujourd'hui les communautés et leurs églises. C'est un fantastique documentaire que nous propose ici Frédérique Lévesque, qui ramène ici pour nous une partie du ravissement dont elle a été témoin. Bonne écoute.
Dans la toundra caractéristique de la Basse-Côte-Nord, l'architecture et l'emplacement des églises et des chapelles se démarquent. Ces bâtiments, parmi les plus vieux de la région, se retrouvent sur la côte du golfe du Saint-Laurent, face au vent du large. Toujours debout. Les chapelles et les églises sont dans les villages francophones catholiques, dans les communautés inoues, au sein des regroupements anglophones de confessions protestantes. Comme partout au Québec, de moins en moins de gens fréquentent les églises. Ce que ces lieux représentent aujourd'hui relève souvent davantage de la symbolique. Comment les gens d'ici imaginent-ils l'avenir de leurs bâtiments religieux? Un avenir parfois relié à celui de leur village. J'ai profité de l'hiver pour me déplacer sur les centaines de kilomètres de littoral de la Basse-Côte-Nord, là où la route ne se rend pas encore. J'ai pris l'avion, l'hélicoptère, et grâce au froid qui gèle les lacs et les tourbières, j'ai pu emprunter le sentier de motoneige qui relie les villages entre eux, pour aller à la rencontre des gens et des églises, pour mieux comprendre.
Oui, bonjour, Dwight.
Yes, speaking.
My name is Frederick. I work for the community radio station in Wellhead.
Okay.
J'ai discuté avec des bénévoles, des évêques, des agentes pastorales, des résidents. Chacun m'a raconté sa propre histoire en lien avec le sujet. Certaines conversations ont eu lieu derrière un écran en raison de la distance. Mais la plupart des gens m'ont accueilli chez eux, dans la chaleur de leur foyer.
Anytime is good.
Okay, well, thank you so much, Dwight, and talk to you later.
I'll put the kettle on when I know you're coming.
That's perfect. Thank you so much.
Les églises de la Basse-Côte-Nord, ce sont d'abord des souvenirs. ce couple résident d'Harrington Harbor se remémore l'époque où les gens se rendaient à l'église du village par bateau, puisque plusieurs habitaient les îles environnantes de celles d'Harrington Harbor.
Church was everybody went to church, and you know I we have I have a very fond memory of in the mornings when the people on the outside islands, because these islands outside here were all populated, and people would come into church. So at 10 o'clock in, or the service was at 10:30, so starting at 9:30 you'd see the boats coming in, and they would be packed. You know, so the church was full. People would stand up even outside.
And a cousin told me, who lived on the outside islands, that when they left, they would start singing, and they would sing hymns. And one of the famous hymns that they used to sing was "All the Way Up Zion's Hill, All the Way with Jesus." And she said you'd hear that as they came over the water.
Un temps où les célébrations dominicales rassemblaient toute la communauté et où la religion était partie prenante du quotidien. Lorsque la célébration se terminait, les gens repartaient en chantant des hymnes religieux dans leurs bateaux. Ici, les églises et les chapelles, ce sont aussi des traces de l'histoire régionale. Elles représentent un patrimoine culturel. La Société historique Mécatina, fondée en 1970, œuvre à la restauration de la chapelle sur l'île Providence, la plus ancienne de toute la région. Située sur une île de l'archipel face au village de Tête-à-la-Baleine, c'est souvent l'église coup de cœur de bien des gens de la Basse-Côte-Nord. La présidente du comité de restauration nous explique le lien fort entre la communauté et sa chapelle.
Elle est bâtie sur du roc de façon littérale et figurée, en ce sens que non seulement elle est bâtie sur le roc, mais elle est également bien ancrée dans notre patrimoine. Hein? Puis c'est que notre sentiment d'appartenance... communautaire, je te dirais, c'est que c'est plus ce qui se passe en 2025. Mais nos souvenirs, c'est qu'à chaque semaine, c'était plein à craquer l'église, là, au moins une fois par semaine. Et c'était à l'île Providence que ça se passait. Donc les familles s'y réunissaient. C'était vraiment un lieu communautaire vivant, là, dynamique. Ça témoigne de l'histoire locale, hein, du mouvement des familles de pêche qui, de façon saisonnière, se déplaçaient plus près des fonds marins. Mais ça rejoint quand même plusieurs régions maritimes du Québec. C'est un peu l'histoire partout au Québec des régions maritimes. Ça se passait comme ça, bien que le site elle a vraiment un caractère unique. Hein, je sais que les gens, en tout cas les commentaires qu'on a à la visite de la chapelle, juste l'hôtel, c'est particulier. Hein, c'est fait sur des cages à homards.
Entrons maintenant dans la chapelle d'Elmer Sound, la chapelle Élisabeth. L'ancienne localité, située entre Tête-à-la-Baleine et Chevry, est fermée depuis 2007, une décision prise par le gouvernement provincial. La communauté s'est mobilisée pour conserver son bâtiment religieux, comme nous le racontent tour à tour les responsables des églises des paroisses de Chevry et de Lourdes de Blanc-Sablon.
L'école a été démolie, le dispensaire a été démoli, le pont qui reliait les deux côtés de la communauté a été démoli. Mais jamais la question s'est posée pour l'église, la petite chapelle. Là. Jamais. Et maintenant, au milieu de nulle part. Là. Et les deux ou trois bouleaux devant sont toujours là.
Parce que c'est pas le gouvernement qui a mis l'église dans le village, c'est la population locale, avec leurs mains et leur argent, qu'ils ont bâti les églises. Hein? Tandis que tout ce qui venait de l'extérieur, du gouvernement provincial ou fédéral, ben ça c'est autre chose. C'est pas les gens qui ont fait des levées de fonds pour avoir une clinique médicale, ni une école, ni...
Même si personne ne réside aujourd'hui dans la communauté, les gens s'y redéplaçaient une fois par année lors d'un pique-nique communautaire et d'une célébration à l'église au mois de mars. Ces rassemblements ont eu lieu jusqu'à tout récemment.
Mais les gens ont gardé un attachement à l'église parce que c'était bâti de leurs propres moyens. Puis aussi, la valeur sentimentale, c'est là qu'ils ont baptisé leurs enfants. C'est là qu'ils ont célébré leur mariage, puis les funérailles et les cimetières étaient à proximité aussi là. Donc, c'est tout un détachement. Hein?
Middle Bay, dans la municipalité de Bonne-Espérance, est un village où l'église demeure l'un des seuls services aux citoyens. La population devra se prononcer prochainement sur le sort de l'église qui ne parvient plus à payer ses factures. Pour l'un des administrateurs de la paroisse de Lourdes de Blanc-Sablon, le choix est clair, il aimerait que l'église puisse rester debout.
J'aimerais que l'église puisse continuer parce que l'église a été bâtie avec les paroissiens de Middle Bay. Okay? Mais dans le temps, parce que c'est pas une vieille bâtisse, là, la bâtisse a peut-être 15 ans, hein? Mais c'est que la population a diminué tellement. Quand le gouvernement a décidé de fermer l'école, il n'y a plus de famille. Quand tu fermes l'école dans un village, il n'y a plus personne qui veut se construire une maison là. Hein? Donc, ils ont perdu l'école, suivi du bureau de poste, suivi du magasin, suivi de tous les services. Donc là, c'est quasiment un village d'été. Même sur les 30 résidents qui sont là à l'année, ils ne sont pas là à l'année parce qu'ils ont de la famille en Ontario ou ailleurs au Québec ou à Terre-Neuve, puis là, ils partent pour une bonne partie de l'hiver aussi. Donc, il y a très peu de personnes qui habitent vraiment à l'année à Middle Bay. Donc, c'est pas seulement l'église qui est en péril dans ce village-là, c'est le village au complet. Là. Donc, le défi pour l'église de rester là, c'est tout un défi, mais
le contexte de dépeuplement des villages, de vieillissement des populations et de baisse de la fréquentation aux services religieux est généralisé dans la région, peu importe les confessions religieuses. Certaines personnes dans les communautés, surtout les aînés et les bénévoles, déplorent que les résidents ne se déplacent aujourd'hui que pour les célébrations majeures, comme les mariages, les baptêmes ou les funérailles. De toute façon, presque aucun prêtre résident ne se retrouve dans les communautés pour assurer un service fréquent. Cela amène des questions pour l'agente de pastorale des communautés allochtones et autochtones de La Romaine et d'Ounamenshipou.
Qu'est-ce qu'elle représente vraiment au fond du cœur, je ne sais pas trop.
Cette agente de pastorale est une sœur de la Congrégation de Notre-Dame de Montréal. Elle s'occupe des églises des deux communautés depuis environ 30 ans et elle habite la région depuis 1974, région où elle a appris la langue inoue. Le sujet de l'appartenance actuelle des populations inouées et allochtones à leur église l'a fait beaucoup réfléchir.
Il faut bien admettre, pour ça, ça conditionne un peu ma réponse. Derrière ce que je dis, pour la réserve, il y a aussi, pour un certain nombre de personnes, le problème des abus sexuels qui ont été faits dans le milieu. Pour certains jeunes, des aînés, je dis, il peut en avoir aussi dans les plus vieux, mais d'un certain âge, là, mais il y a des qui vont, et ça n'a pas atteint leur foi. Mais pour d'autres, c'est un peu comme on dit, on jette le bébé avec l'eau du bassin. Alors, tu sais, je crois qu'il y en a qui veulent rien savoir, veulent plus rien savoir de tout mensonge, si je peux dire, là. On pourrait aller, j'en prends de leur pensée que de ce mensonge.
Après avoir poursuivi la discussion avec elle, j'ai insisté pour inclure cet aspect des abus vécus par certaines personnes dans les communautés de la région et reliés à certaines églises, comme celle de la communauté d'Ounamenshipou, où il est question surtout du père Alexis Jovenot, aujourd'hui décédé. Ce curé pour la communauté Innu de 1953 à 1992 cumule des dizaines d'accusations d'agressions sexuelles. Plusieurs personnes m'ont parlé du sujet des abus de la part des représentants de l'Église dans différents villages. Ça conditionne aussi le lien avec le bâtiment religieux.
Quand j'étais plus jeune, j'allais servir la messe. Puis, c'est ça. Par après, les affaires étaient différentes. J'ai fréquenté, pas du tout par après, seulement quand il y avait un décès, mettons, dans la famille, tu sais, ou quelque chose comme ça. Puis, non, c'est bizarre parce qu'on dirait que, après tout l'abus, les affaires de même qui est arrivé, tu sais, auprès des gens, tu sais, puis ils se retournent, c'est épouvantable. C'est, ils sont pas tous le même, mais je pense que, tu sais, ça nous a gardé. Ça nous a marqué.
La fréquentation déjà amoindrie des églises et chapelles aurait diminué encore davantage depuis la pandémie, selon certains intervenants, comme nous en informe le couple principalement en charge de la paroisse Sainte-Anne à Tête-à-la-Baleine.
Avant, on avait quand même presque 10 % de la population qui assistait à chaque dimanche. Mais maintenant, la proportion a quand même baissé. Non, l'intérêt comme pas revenu, l'habitude.
Bien souvent, les églises et les chapelles de la Basse-Côte-Nord sont vides.
Depuis qu'il y a moins de fréquentation, elle n'a pas servi à bien des choses. Il y a un moment donné, l'orchestre à cordes qui est venu, qui l'a utilisé.
Lors de la tournée des clochers, ça avait été... toutes les églises avaient été sollicitées pour accueillir l'orchestre à cordes.
Été 2016, l'orchestre à cordes de Baie-Comeau se déplace jusqu'en Basse-Côte-Nord à bord de la desserte maritime de la région et enchaîne les concerts dans les églises et les chapelles. Cet usage différent des lieux de culte de la région serait porteur d'espoir pour plusieurs personnes à qui nous avons parlé, comme nous le rapportent tour à tour des membres des communautés d'Arrington Harbor et de Lourdes de Blanc-Sablon.
Tu changes, mettons, tu fais des activités dedans. Tu vois ça comme des places communautaires, les gens ils se rencontrent pour jaser des bonnes affaires. Faire de la musique, tu sais, parce que c'est une bonne place, il y a des organes, c'est un super bon écho là-dedans, tu sais, puis c'est la meilleure place pour les enregistrements, tu sais, puis c'est tellement potentiel, une place comme ça.
I mean, to me, you know.
Pour ce résident d'Arrington Harbor, si l'Église veut demeurer pertinente aujourd'hui, il faut penser différemment. Faire de ces bâtiments des lieux culturels sans nécessairement les désacraliser. C'est une idée qui s'est déjà matérialisée dans plusieurs églises, comme à l'église de Lourdes de Blanc-Sablon, qui est aussi un musée en l'honneur de Monseigneur Schaeffer. À Tête-à-la-Baleine, l'église du Large et du Village se sont toutes deux transformées occasionnellement en salles d'exposition. Faire de la chapelle de l'Île-Providence un lieu de rassemblement pour de multiples événements, dont certains pourraient être d'ordre religieux, est d'ailleurs l'objectif du comité de restauration de la chapelle, comme nous le rappelle la présidente du comité, dont la fille s'est d'ailleurs mariée à la chapelle de l'Île-Providence.
Bien, ça fait plusieurs années, de toute façon... Elle est surtout utilisée pour le tourisme pour des représentations culturelles, aussi pour des représentations de culte particulières comme un mariage, des baptêmes, ou ne serait-ce que ce qui était vraiment fêté, c'est la paroisse Sainte-Anne de Tête-à-la-Baleine. La fameuse fête de Sainte-Anne l'été, ça se passait à Lille. Évidemment.
Bien que l'appartenance religieuse soit donc encore présente, les gens nous parlent surtout d'une appartenance sentimentale, comme nous le rappelle l'évêque du diocèse anglican de Québec, Bruce Myers.
Je pense que dans toutes les communautés sur la Basse-Côte-Nord, il y a des gens qui habitent toujours dans ces villages qui peuvent dire « mon grand-père ». A construit cette église, ou c'est mon oncle qui a réparé le toit, ou c'est mon arrière-grand-père qui a contribué le terrain, ou etc. Alors, il y a un lien direct avec beaucoup des familles dans ces communautés avec ces églises. Alors, ça, le résultat, c'est un lien qui est difficile à briser.
Moi, je dirais que les gens sont quand même attachés à leur église. Si on fait des levées de fonds ou n'importe, l'église a une grande place dans le cœur des gens, mais la fréquentation, les obligations, je ne sais pas.
Les gens ne fréquentent pas, mais il reste que les gens sont encore croyants. Et pour eux autres, c'est un symbole de la croyance, l'Église, qui est en même temps le lieu central du village et qui rappelle, qui pour les gens, ça leur rappelle énormément de souvenirs aussi, je crois. Donc, ça aussi, ça a son importance.
I cannot imagine Harrington without a church.
The thing that I see, you know, is if you're out in these types of towns, in most cases, you can still find, if a church closes, you can still find a church to go to. You know, you might have to go a few more miles to get to one, but you can still find one. But I mean, there's only one church here.
Ces deux résidents d'Harrington Harbour ne peuvent concevoir leur village sans son église. Deux églises existaient au village auparavant, l'une d'entre elles a brûlé. Ils n'aiment pas s'imaginer que la communauté pourrait perdre son dernier lieu de culte. En discutant, ils soulignent d'ailleurs que partout au Québec, les croyants d'un village qui perd son église peuvent aller se ressourcer ailleurs, mais pas ici. Pas en Basse-Côte-Nord, où les communautés ne sont pas reliées entre elles par la route. La poignée de bénévoles qui s'occupent des églises et des chapelles s'investissent pour la plupart depuis des décennies déjà. Une certaine crainte, ou plutôt une incertitude par rapport à l'absence de relève, est palpable.
Oh, on pourrait dire, on pourrait faire aujourd'hui un appel à tous pour de la relève. SOS, on a besoin d'aide.
Il y a quand même bien des choses attachées à ça. On a simplement pensé à tout ce qui régisse de toute la population, la conservation de ça, puis tenir à jour, puis d'être capable de répondre, c'est déjà beaucoup aussi. Il y a aussi de la paperasse pour au niveau annuel, budget, rapport d'impôt et tout.
Certificat de naissance, certificat de décès, attestation de toutes sortes.
Les toits qui coulent, les portes et vitraux désuets, les planchers défraîchis doivent être entretenus. Alors qu'avant, les bénévoles mettaient la main à la pâte, les paroisses doivent maintenant débourser. Cela n'est pas spécifique à la Basse-Côte-Nord. Ce qui l'est, en revanche, c'est que les églises et les chapelles ont ici une utilité essentielle. Elles font office de salon funéraire. Aucun village de la Basse-Côte-Nord ne possède de salon funéraire ou de morgue. Aucun, sauf Lourdes de Blanc-Sablon, où on retrouve le salon funéraire Chapelle de la Paix. Partout ailleurs, les morts trouvent refuge à l'église en attendant leur cérémonie. Pour cette raison, dans certains villages, comme à Vieux-Fort, la tradition de conserver les corps à la maison pour la veillée funèbre, afin d'y recevoir les proches pour la cérémonie, se voit de plus en plus.
Like in my family, for example, I've lost five siblings. And all my siblings were brought home.
Ce résident du village anglophone de Vieux-Fort nous explique qu'il ne peut concevoir le deuil de ses cinq frères et sœurs sans l'appui de sa communauté, à son domicile, lors d'une cérémonie avec la personne défunte. Les liens communautaires sont au cœur des mœurs de la région, selon lui.
And then the community can all share in the grief because everybody comes to visit at the house. They bring food. It's all about a community. I think that's what's the important thing, the connection is community. I know that bigger cities have communities, they have friends, but on the coast, we're actually one community, we're one family. And it's so different and so important. And I don't think that's going to change in a long, long time. Because when tragedy happens, the community comes together. We're all one family. So we all support each other.
Cet homme a d'ailleurs une relation toute particulière avec le sujet de la mortalité sur la Basse-Côte-Nord. Il construit lui-même des cercueils qu'il personnalise. Il me montre la photo de l'une de ses réalisations. Un cercueil de construction modeste en bois pâle, couvert d'un rosier peint à la main et réalisé pour une femme de 104 ans de Rivière-Saint-Paul. Il travaille aujourd'hui à construire le sien, dont il m'a aussi parlé. S'il était plus jeune, il en ferait une entreprise, confiant d'avoir de la demande dans la région.
I wish some young person would, I could convince a young person to take my idea
and go back to the old traditions of building caskets? Because most people now are, they want this. I've had orders, once this one was built, people saw it, I want you to build my coffin. So people are getting away from, some people want this glitzy, fancy funeral, but others just want go natural, go back to the old ways.
Après avoir terminé un thé agrémenté d'une cuillère de miel, je me suis levée, j'ai quitté la maison colorée de mon hôte, direction l'église anglicane de Vieux-Fort. Une énième porte d'église à ouvrir qui me dévoilerait ses bancs vides, son silence, un silence habité où se bousculent dans ma tête toutes les conversations que j'ai eues.
C'est toujours l'occasion, je crois, parce que même moi, quand on va à l'extérieur, dans un milieu qui n'est pas, disons, francophone pour moi, il y a un sentiment comme d'urgence, si je peux dire, un sentiment de besoin, là, tu sais, vital, de se regrouper à l'intérieur de notre petite communauté. Mais les gens sont ouverts à tout, mais il y a quelque chose, je pense, qui ne se... Comment dire? Quelque chose qui ne se juge pas ou qui ne se... C'est de l'ordre du senti. Je crois que c'est de l'ordre du senti. Que l'attachement à l'Église.
C'est un autre monde. C'est une démesure quand tu arrives sur les îles où c'est habité, tu te dis « Oh, ça existe encore au Québec. » Et parce qu'il faut savoir, faut juste mentionner de nouveau qu'on n'est pas relié au réseau routier provincial. Alors, c'est soit le bateau ou l'avion ou la route blanche l'hiver. Donc, c'est une démesure là, d'arriver sur les îles puis de voir... quand même qu'il y a des bâtiments qui et des gens qui y habitent encore, là, et des bâtiments de cette envergure.
S'intéresser aux églises sur la Basse-Côte-Nord et à leur importance pour les communautés nous renseigne sur le dévouement communautaire, mais aussi sur l'épuisement. Les églises et les chapelles de la région nous parlent à la fois d'enracinement et de précarité. Ce sont encore souvent des espaces de rassemblement importants. Si ces lieux ancrés dans la mémoire collective sont tout de même devenus principalement symboliques, le poids de leur survie, lui, est bien réel. C'était Frédéric Lévesque à Tête à la baleine pour l'IGL.
C'est le moment pour nous de quitter les gens et les berges des villages de la Basse-Côte-Nord que nous a présenté Frédéric Lévesque. Vous en avez manqué un bout, souhaitez le réécouter, rendez-vous sur fréquenceinfo.ca et sur l'onglet Région, puis Québec et Tête à la baleine pour le retrouver dans son entier. Frédéric, qui y a aussi posté des photos de son road trip, nul doute qu'on va aussi rediffuser ce documentaire à une date ultérieure. On vous rappelle que l'émission Point de vue et sa sœur anglophone Viewpoints vous sont présentés par le Fonds canadien de la radio communautaire, Julia Chénu, rédactrice nationale, Boris Chassagne à l'animation et à la réalisation qui vous dit merci d'être là. Ciao!